Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, livre 7, Savitri, chant 5, La découverte de l'âme. Elle a continué sa route en quête de la caverne mystique de l'âme. Tout d'abord, elle est entrée dans une nuit de Dieu, la lumière qui aide, le labeur du monde était étouffé. La force qui lutte et trébuche dans notre vie, ce mental impuissant, abandonné ses pensées, ce cœur tendu, laisser ses valeurs, ses vains espoirs. Toute connaissance échouée et toute forme de l'idée. Et la sagesse apeurée se cacher tête basse, sentant une vérité trop haute pour la pensée ou les paroles, sans forme, ineffable, à jamais pareil. Une innocente et sainte ignorance adorée, comme l'on se prosterne devant Dieu sans forme. L'invisible lumière qu'elle ne peut pas posséder ni demander. Dans la simple pureté de la nullité, son mental s'agenouillait devant l'inconnaissable. Tout était aboli, sauf son être nu. Et l'aspiration prostée de son cœur soumis, il n'y avait nulle force en elle, nulle fierté de force. La haute ardeur du désir avait sombré, honteuse, comme une vanité du moi séparée, l'espoir d'une grandeur spirituelle avait fui. Elle ne demandait pas le salut, ni quelque couronne céleste. Maintenant, l'humanité lui semblait un état trop orgueilleux. Son moi n'était rien. Dieu seul était tout. Pourtant, elle ne connaissait pas Dieu, elle ne savait pas seulement qu'il était. Maintenant, une obscurité sacrée l'enveloppait dedans. Le monde était une profonde obscurité grandiose et nue. Ce vide contenait plus que tous les mondes grouillants. Cette nullité sentait plus que tout ce que les temps avaient porté. Cette nuit connaissait muettement, immensément, l'inconnu. Mais tout était sans forme, sans voix, infini. Comme pourrait l'être une ombre marchant dans une scène d'ombre, un petit rien passant à un rien plus grand. Une personne fantôme en silhouette nue, traversant une nuit impersonnelle, sans fond. Elle allait silencieusement, vide et absolue. Dans le temps sans fin, son âme arrivait à une fin béante. Le vaste sans borne était devenu le lieu de son esprit. Finalement, un changement appelé, approché, le vide s'est brisé. Une onde a ondoyé en elle, le monde a remué. De nouveau, son moi intérieur devenait son espace. On sentait l'heureuse proximité du but. Les cieux se penchaient pour embrasser la montagne sacrée. L'air tremblait de passion et de délices, telle une rose de splendeur sur un arbre de rêve. Le visage de l'aurore sortait d'un crépuscule songeur. Le jour est venu, prêtre d'un sacrifice de joie. Dans le silence, adorateur de son monde, il portait pour robe la gloire immortelle. Traînait les cieux comme une écharpe pourpre et sur le front un soleil rouge pour marque de sa caste. Comme un vieux rêve, souvenu qui devient vrai, elle reconnaissait dans son mental prophétique la gloire impérissable de ce ciel, la douceur frémissante de cet air heureux, puis cachée de la vue mentale et des approches de la vie, la caverne mystique dans la montagne sacrée, et elle sut la demeure de son âme secrète. Comme dans une profondeur élyséenne occulte, ultime retraite de la vérité contre les mains profanatrices de la pensée, comme une solitude cachée d'un temple de roc, refuge de Dieu contre un monde d'adoration ignorante, cette demeure d'âme restait fermée même au sens intérieur de la vie, fuyant les désirs embrouillés du cœur. Une mystérieuse pénombre méditative pénétrait les yeux et un calme sacré gardait cet espace sans voix. Une ombre redoutable entourait le grand portail de roc, sculpté dans la pierre massive du sommeil de la matière. Deux serpents d'or s'enroulaient autour du linteau, l'enveloppant de leur pure force terrible. Ils veillaient avec les yeux luminescents et profonds de sagesse. Un aigle couvrait la porte de ses grandes ailes conquérantes. Perdues en elles-mêmes dans une immobile rêverie de feu, des colombes nichées dans la grisaille des corniches songeuses, comme des effigies de paix à la poitrine blanche sculptée. Traversant le seuil du sommeil, Savitri est entrée et s'est trouvée au milieu des dieux au grand visage, conscient dans la pierre et vivant sans souffle, observant l'âme de l'homme d'un regard fixe, représentant exécutif du moi cosmique, symbole mondial de l'immuable puissance active. Sur les murs couverts de formes significatives, des scènes vivantes d'hommes et de bêtes la regardaient, le haut dessin de la vie des dieux. Le pouvoir et la nécessité de ces innombrables mondes et des visages d'êtres et leur étendue d'espace universel disaient avec précision l'inépuisable message hiératique des plans ascendants. Leur multitude même témoignait de l'infini. Ils étaient le prolongement du moi de Dieu. Ils abritaient, contenant tout impassiblement, ses visages et ses actes petits et grandioses, et sa passion et sa naissance, et sa vie et sa mort, et son retour à l'immortalité. Il grimpait à l'éternel et l'immua, à la pure existence, partout pareil, à la conscience entière et à la force absolue, et à la félicité inimaginable et sans forme au rire, dans le temps et au mystère hors du temps, de l'être triple en un qui est tout et qui est un, et pourtant n'est personne sauf lui-même à part. S'il n'y avait nul bruit des hommes qui respirent, nul son, seul l'intimité vivante de l'âme. Et pourtant, tous les mondes et Dieu lui-même étaient là, car là, chaque symbole était une réalité et apportait la présence qui lui avait donné la vie. Sa vitrine voyait tout cela et sentait intérieurement et savait non pas par quelques pensées du mental, mais par le moi. Une lumière qui n'est point née du soleil, ni de la lune, ni du feu. Une lumière qui demeurait dedans et voyait dedans, versant une visibilité intime, rendait le mystère plus révélateur que la parole. Notre vue et nos sens sont un regard et un toucher faillibles. Seule la vision de l'esprit est pleinement vraie. Ainsi, sa vitrine est-elle passée en ce lieu mystérieux, traversant des chambres et des chambres, des portes et d'autres portes taillées dans le roc, et à mesure elle se sentait devenir une avec tout ce qu'elle voyait. Une identité scellée s'éveillait en elle. Elle se savait la bien-aimée du suprême, car Dieu, et ses déesses étaient lui et elle. Elle était la mère de beauté et de délices, le Verbe dans la vaste embrasse créatrice de Brahma, la puissante cosmique sur les genoux, tout puissant de Shiva, le maître et la mère de tout ce qui vit. Regardant les mondes que leur regard jumelé avait créés, et Krishna, et Radha jamais enlacé, dans la félicité l'adorant et l'adoré, perdus en eux-mêmes et un. Dans la dernière chambre, sur une assise d'or l'un siégé, que nulle vision ne peut décrire. On sentait seulement l'inaccessible source du monde, une puissance dont elle était une coulée de force, une invisible beauté, but du désir du monde, un soleil dont toute connaissance est un rayon. La grandeur sans laquelle nulle vie ne pouvait être. De là, tout partait dans le moi de silence et tout devenait sans forme et pur et nu. Puis, par un tunnel creusé dans le dernier roc, elle est sortie dans la splendeur d'un immortel soleil. Une demeure était là, faite entièrement de flammes et de lumière. Alors, traversant un mur de feu vivant sans porte, là, subitement, elle a rencontré son âme secrète. Un être se tenait là, immortel, dans le transitoire impérissable, jouant avec les choses qui passent. Dans ses grands yeux de tranquille félicité, que le malheur ni le chagrin ne pouvaient abolir, l'infini tournait son regard sur les formes finies. Observateur du pas silencieux des heures, l'éternité soutenait les actes de la minute et les scènes passagères du jeu de l'éternel. Dans le mystère du choix de sa volonté, dans la divine comédie, cette âme était participante, représentante consciente de l'esprit, déléguée de Dieu dans notre humanité, camarade de l'univers rayon du transcendant. Elle était venue dans la chambre du corps mortel pour jouer à la balle avec le temps. Les circonstances, sa joie dans le monde était son mouvement dominant ici. La passion du jeu allumait ses yeux. Un sourire sur ses lèvres accueillait le bonheur et les chagrins de la terre. Un rire était sa réponse au plaisir et à la douleur. Elle voyait toutes choses comme une mascarade de la vérité, déguisée dans des costumes d'ignorance, voyageant par les années vers l'immortalité, elle pouvait tout affronter avec la paix solide de l'esprit. Mais parce qu'elle connaît le labeur du mental et de la vie, comme une mère sent et partage la vie de ses enfants. Elle émane une petite part d'elle-même, un être pas plus grand que le pouce d'un homme, caché dans la région du cœur pour faire face aux tourments et oublier la félicité, pour partager la souffrance et endurer les blessures de la terre et labourer parmi le labeur des étoiles. C'est cela en nous qui rit et pleure, subit le coup, exulte dans la victoire, lutte pour la couronne. Identifié avec le mental et le corps et la vie, cet être prend sur lui leur angoisse et leur défaite, saigne sous le fouet du destin et pend sur la croix. Et pourtant, il est le moi immortel et sans blessure, soutenant l'acteur sur sa scène humaine. Par lui, la mère nous envoie sa gloire et ses pouvoirs, pousse vers les hauteurs de la sagesse. Par les gouffres de la misère, elle nous donne la force d'accomplir notre tâche quotidienne et la sympathie qui partage le chagrin d'autrui. Et le peu de force que nous avons pour aider notre espèce, nous qui devons remplir notre rôle universel qui se joue jusqu'au bout dans une frêle forme humaine et qui devons porter sur nos épaules ce monde en lutte. C'est cela le Dieu en nous, menu et défiguré. Dans cette humaine parcelle de divinité, elle établit la grandeur de l'âme dans le temps, afin qu'elle s'élève de lumière en lumière, de pouvoir en pouvoir, jusqu'à ce qu'elle se tienne debout sur un sommet des cieux, roi. Alors aujourd'hui, je termine la découverte de l'âme, Savitri, livre 7, Chant 5, Sri Aurobindo. Je remercie infiniment pour cette lecture Sri Aurobindo et Douce Mère. Merci Stefano, Ganga Lakshmi.
This is Oroville Radio.